Aujourd'hui, on cause un peu notre routine de sujet sur croire Dieu et ses promesses, mais en réalité, toutes les prédications reviennent à croire les promesses de Dieu, les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu qui sont écrites dans la Bible, c'est le livre de Dieu, c'est le livre qui nous guide, qui nous conduit, qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous ramène dans la vérité. C'est pour ça que peu importe le sujet qu'on parle, on prend des versets de la Bible, ces versets-là, ce sont des puissances de Dieu pour notre salut, pour notre croissance, pour notre bénédiction, pour nos changements. Le Saint-Esprit sert de cela pour nous faire avancer dans le Seigneur, puis nous fortifier. Amen. Aujourd'hui, on va voir un sujet intéressant. C'est un sujet que je veux ramener à tous les ans, quand c'est la période de cela. C'est quelque chose qui n'est pas compris dans l'ensemble, dans la majorité des églises, parce qu'aujourd'hui, on se fie plus aux fêtes traditionnelles qu'aux fêtes perpétuelles de Dieu. Puis, je crois qu'il faut être sensibilisé à ce que Dieu nous a donné par ces fêtes perpétuelles, parce qu'il y a un message prophétique que Dieu veut nous donner. Le sujet qu'on regarde aujourd'hui, on va parler de la fête de Pâques. On va voir là-dedans que c'est une action de délivrance de Dieu. C'est Dieu qui a fait quelque chose de précis à la journée de Pâques dans le but de délivrer. Puis c'est pas arrivé juste une fois, on va le voir aujourd'hui. La fête de Pâques fait partie des fêtes perpétuelles de Dieu. Quand Dieu a institué ces fêtes-là, c'est sûr qu'il les a enseignés dans le contexte de la loi parce qu'il s'était choisi un peuple pour le représenter, puis ce peuple-là devait être ceux qui observent ce que Dieu a dit afin que toutes les nations voient et croient ce que Dieu a dit. Puis une des fêtes, parce qu'il y en a plusieurs fêtes que Dieu a instituées, puis Dieu a précisément, on va le voir un peu plus tard, dit que c'est des fêtes perpétuelles qui devraient être célébrées dans ce monde tous les ans, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus d'années. Autrement dit, tant qu'on va être ici sur la terre, puis ça sera nos descendants, puis nos descendants des descendants qui continueront à célébrer la fête de Pâques, parce que c'est important. Elle était célébrée, cette fête-là, parce qu'elle a été instituée le 14 du mois de Nissan. Puis ça, c'était dans le calendrier lunaire des Juifs. Les Juifs ne suivaient pas le même calendrier, puis un des mois, c'était au printemps, c'était à cette période-ci de l'année. Puis à chaque année, c'est différent parce que le calendrier, il est pas synchronisé avec notre calendrier solaire. C'est un calendrier plus basé sur la lune, les nouvelles lunes. Puis à chaque nouvelle lune, c'est un nouveau mois. Puis tout était quand même là comme synchronisé pour reconnaître quelle date que c'était le 14 de Nissan pour eux. Puis à chaque année, le 14 de Nissan, ils devaient célébrer la fête de Pâques. Cette année, la fête de Pâques, vu que ça tombe pas toujours dans le même calendrier que nous, ça tomberait cette année le 8 avril, qui est la journée de la fête de Pâques. Ça commence le 8 avril, puis ça dure une semaine, cette fête-là, parce que la fête de Pâques est suivie de la fête des pains sans levain, qui dure une semaine. Fait que il y a un 8 jours là qui est là que chaque année le 14 de Nissan, mais pour nous cette année ça tombe le 8 avril. Ce qui est différent d'avec la fête de la religion catholique qui a présentement dans le calendrier canadien puis pas mal dans le calendrier mondial, la fête de Pâques, c'est pas la fête de Pâques de Dieu, celle qui est célébrée dans le monde. Mais on veut revenir à ce que Dieu a dit comme étant la fête de Pâques, la vraie journée que Dieu a opéré, c'est miracle, parce qu'il a opéré des délivrances à cette journée-là. La période, comme j'ai dit tantôt, la période biblique, là, selon le calendrier biblique, la période des fêtes du printemps, Dieu avait donné 4 fêtes autour d'un printemps, puis il a donné des fêtes d'automne dans la saison. Puis là, on est dans le temps des fêtes du printemps. Dans les fêtes du printemps, il y avait la Pâque, la fête des pains sans levain, qui durait 7 jours, puis il y avait les prémices d'offrir les premières gerbes à Dieu en action de grâce au début du printemps. Puis il y a aussi, 50 jours plus tard, il y a la fête de la Pentecôte. Je vais en parler un peu plus tard dans des études futures. Dieu, dans tout ça, quand il a célébré ces fêtes-là, il y a un agenda. Dieu, il nous a révélé son agenda. Bien avant que Jésus vienne, il y avait un message prophétique dans les fêtes de Pâques pour annoncer quelque chose plus tard. Puis ça, on va le voir tantôt. Puis dans chaque fête, c'est des fêtes précises, avec des dates précises, puis vous allez voir pourquoi que je dis ça, par Dieu. C'est pas le gouvernement qui a imposé les fêtes, la fête de Pâques, la fête perpétuelle. C'est Dieu qui l'a imposé. Puis elle est encore valable, cette date-là. Puis Dieu s'attend qu'on le célèbre pour ce qu'il a fait dans ce moment-là. On va le voir tantôt. Un verset que je veux vous lire au début pour vous montrer comment c'est important les fêtes. Puis on n'a pas à se sentir jugé parce qu'on les pratique. Les gens prennent ça le contraire. Du moins, je veux pas le pratiquer, puis juge-moi pas. Mais si on les pratique, faut pas juger non plus, parce que c'est les fêtes que Dieu a instituées. Dans la version Darby, je veux vous faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Dans Colossiens 2, les versets 16 et 17, ça nous dit que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger, le boire, ou à propos d'un jour de fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Voyez-vous, les fêtes, les lunes, les sabbats, c'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que Dieu, il y avait un message dans ces fêtes-là, dans ces lunes-là, dans ces sabbats-là, qui sont une ombre des choses à venir. Ça veut dire que les choses à venir étaient les plus importantes, étaient les réelles choses. Fait que, en réalité, les fêtes annonçaient un message de dire qu'il va se passer de quoi de spécial cette journée-là, plus tard. Puis ça nous dit, le corps est en Christ. Ça veut dire, la fête est accomplie à travers Jésus. Puis ce que Jésus a fait ou ce que Jésus va faire. Parce qu'il y a différentes fêtes dans le calendrier. Elles sont pas toutes accomplies. Mais la fête de Pâques, le message est accompli, puis on va le voir tantôt. La première Pâque, quand que Dieu l'a instituée, lors de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, parce que si on lit l'histoire dans l'Ancien Testament, on le sait que le peuple d'Israël, ils sont ramassés en Égypte, puis ils ont été là longtemps, assez longtemps que... Ils sont devenus les esclaves des Égyptiens, puis Dieu est obligé d'intervenir en envoyant un libérateur pour les sortir de là. Puis quand ils sont venus pour être sortis de là par Moïse, c'est passé des signes puissants par la main de Dieu qui a fait les 10 plaies en Égypte. Puis, la journée qui était pour partir, là, Dieu leur a demandé quelque chose, une action de foi, parce que c'était pas évident. Il n'y avait personne qui avait vu ou entendu une chose pareille. Puis là, Dieu a dit à Moïse, là, vous allez faire quelque chose là. Il dit, Dieu leur a donné en plus un avertissement dans ce qu'il leur demandait. On voit ça dans Exode, chapitre 12, le verset 3. Mais il a demandé à tout le peuple d'obéir, de le faire. Puis s'il ne le faisait pas, il y aurait des conséquences, puis Dieu les a avertis. Alors regardez bien qu'est-ce qui s'est passé. Dieu a dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ça veut dire que là, ils devaient se préparer pour cette fête de Pâques-là en achetant d'avance leur agneau. Un agneau qui a vécu pendant quelques jours dans cette famille-là, sûrement que cet agneau-là était aimé, flatté, tout le monde aime ça, des petits animaux, là, on parle pas d'une brebis adulte, on parle d'un agneau, c'est un bébé. Puis, ils devaient l'amener dans la maison chez eux, puis tout le monde pouvait s'attacher à cet animal-là. Puis là, ils gardaient pendant 4 jours de temps. Puis après ça, Dieu lui demandait, pour la journée de Pâques, qui était le 14, ça c'était le 10 qui prenait l'agneau, le 14, il était pour faire la Pâque, qui était, on tue l'agneau, bien entendu, on le prépare pour le faire cuire, puis on récupérait le sang. Puis là, regardez bien qu'est-ce que Dieu a dit dans cela. Il dit, il devait prendre un agneau sans défaut, un agneau ou un chevreau parfait. Fallait pas qu'il y ait de défaut, parce que Dieu, il accepte pas des sacrifices, des choses infirmes. Si t'as fait un animal infirme, un roi, là, il acceptera pas ta brebis ou ton bœuf infirme. Quand tu vas offrir de quoi à Dieu, tu offres de quoi de qualité. Fait que Dieu, il exigeait que ce soit un agneau sans défaut, sans tâche, Il devait, cet agneau-là était prophétique pour annoncer quelque chose dans le futur, on va le voir tantôt. Il prenait l'agneau sans défaut, dans Exode 12, verset 5, un agneau sans défaut, un mâle âgé d'un an, puis il pouvait prendre soin de l'agneau ou un chevreau, un petit d'une chèvre ou un petit d'une brebis. Puis là, il leur demanda de prendre le sang de cet animal-là avant de le faire cuire, de récupérer le sang, puis d'appliquer le sang récupéré sur les cadrages de leurs portes. Il vivait en Égypte, il était parmi les Égyptiens, il était encore esclave jusqu'à ce moment-là. Puis là, Dieu lui a dit, mettez du sang sur le cadrage de vos portes. Fait que là, le fait d'appliquer le sang, mais c'est un geste d'obéissance, parce que c'est Dieu qui a demandé au peuple d'Israël de le faire. Puis il a dit, je vais m'en en venir là-dessus tantôt, il a dit à tout le monde, pratiquez cela, faites-le, là, parce que là, c'est important que vous le faites, cet acte d'obéissance-là. C'est même salutaire. Comment est-ce que Dieu lui a demandé que chaque maison devait l'appliquer? Dans Exode 12, le verset 7, on prendra de son sang, on la mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Là, les gens devaient faire cuire l'agneau, puis le sang, il avait été mis ses cadrages, puis là, il faisait cuire l'agneau, puis il devait le manger. Il y avait toute une petite procédure à faire, mais c'était en réalité le début d'une nouvelle fête qui était la fête de Pâques. On va comprendre aussi pourquoi qu'on appelle ça Pâques. Je continue avec cela. Le sang de l'agneau de la Pâques, mais leur permettait d'être épargnés du jugement de Dieu contre les faux dieux de ce monde. Parce que Dieu, quand il est venu pour faire la 10e plaie d'Égypte, là, il leur a dit, préparez-vous, mettez le sang, mangez l'agneau. Là, je m'en viens pour juger les dieux de l'Égypte, les dieux de ce monde. Parce que les gens se confient dans leur Dieu, puis s'opposent à l'Éternel, Dieu a tranché. Là, Dieu, il s'est dit, je vais voir lesquels qui vont marcher par la foi, puis qui vont obéir en mettant le sang sur le cadrage de leur porte, puis faire ce que je leur demande. Fait que tous ceux qui ont eu la foi, ils l'ont fait, les autres l'ont pas fait. Là, ça nous dit dans le passage, dans Exode 12:12, cette nuit-là, Dieu qui parle, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Il dit, je suis l'Éternel. Voyez-vous, dans ce passage-là, Dieu voulait comme régler le cas des faux dieux. Il voulait que le monde tranche quel Dieu qui voulait suivre. Tu veux te suivre l'Éternel, tu vas obéir à l'Éternel. Si tu obéis à l'Éternel, tu vas mettre du sang sur le cadrage de ta porte. Puis les autres, ils se disent, bof, c'est qui ça l'Éternel? Puis moi, j'ai mes dieux, puis blablabla. Mais Dieu, ce jour-là, il a tranché, il a donné un avertissement. Tous les Égyptiens auraient pu le faire aussi. Sûrement qu'il était conscient de ce que Dieu exigeait de manger un agneau puis d'avoir du sang sur le cadrage. S'il aurait obéi, il n'aurait rien arrivé. Mais ils n'ont pas été sous la protection de Dieu puisqu'ils l'ont pas fait. Puis ça nous dit que les familles dans l'Égypte, toutes les maisons, ils ont perdu le premier-né de leur famille. Ils sont morts. Par un ange de l'Éternel qui a passé dans le pays puis qui a fait un jugement. On voit là-dedans comment est-ce que c'était pas drôle dans ces temps-là. Puis on voit aussi qu'on n'est pas seul à avoir vécu des moments difficiles dans notre vie. Fait que ceux qui n'avaient pas mis du sang sur leur cadrage, ils ont perdu un membre de leur famille. Ils ont reçu le jugement de Dieu qui avait été annoncé. Les autres, c'est le contraire. Ils ont mis du sang, ils ont été protégés par Dieu. La protection de Dieu était pourvue par le sang de l'agneau qui était sur le cadrage des portes. Ceux qui mettaient le sang, mais ça leur permettait de conserver la vie. En Exode 12:13, ça dit, c'est Dieu qui parle, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, puis je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Quand je frapperai le pays d'Égypte. Voyez-vous, la sécurité, la protection, le salut étaient sous le sang. Si tu avais mis le sang sur le cadrage de porte de ta maison, tu étais protégé par Dieu, puis Dieu passait par-dessus. Puis quand on dit que Dieu passait par-dessus, c'est ça qui est l'idée du mot Passover. Passover, qui veut dire en français, c'est un mot qui est un peu, nous en français, ça ne dit pas grand-chose, il faut comprendre l'histoire pour l'attribuer, Pâques. Le mot Pâques veut dire passer par-dessus. Fait que Dieu a passé par-dessus, puis il a épargné les gens dont le sang était là sur les cadrages de porte. Ils n'ont pas reçu, malgré qu'ils étaient là, le jugement de Dieu dans leur famille, parce qu'ils étaient sous la protection du sang de l'agneau. C'est extraordinaire. Mais quand Dieu a institué cette fête-là, il y avait un plan, il y avait un agenda. La date était précise, puis l'événement qu'on devait obéir à cela, dans ce temps-là, était très important parce que c'est une question de vie ou de mort. Dieu voulait que ce message se perpétue, parce que quand que là, l'ange a passé, le peuple juif, ils ont été protégés parce qu'ils ont obéi, ils ont démontré qu'ils avaient la foi en Dieu, puis tous ceux qui ne l'avaient pas fait, ils ont été sous jugement. La plaie était si terrible parmi les Égyptiens qu'ils ont dit aux Juifs qui étaient esclaves dans ce période-là, leur a dit, sortez d'ici, dépêchez-vous, puis on veut vous en allier, on a par-dessus la tête des jugements de Dieu, on sait que Dieu est avec vous, puis tout ça. Tout ça, ça découle de l'idée que Dieu s'est révélé, puis les gens y ont cru. Ils ont dit, sortez. Ils ont cru que Dieu était avec eux. Puis ils ont sorti. Puis c'est là qu'a été leur délivrance. Fait que la journée de Pâques, c'est une journée pour sortir à la hâte. C'est une délivrance de l'Éternel. Autant qu'ils étaient protégés du jugement, mais en plus de ça, ils ont été libérés de leur esclavage. Ils ont été chassés de l'Égypte. Puis ils sont partis à la hâte. Dieu les avait avertis, vous allez partir à la hâte. Ils sont partis à la hâte. Ça a permis au peuple juif d'être délivré. C'est pour ça que Pâques, c'est une action de délivrance de Dieu. C'est la délivrance de Dieu, cette journée-là. Dieu voulait que ce message-là se perpétue, puis que tout le monde le sache, de père en fils, de génération en génération. C'est pour ça qu'il a institué cette journée de fête-là comme une fête perpétuelle, qui devait être perpétuée au siècle des siècles, des siècles, des siècles. Il n'est pas question d'arrêter cela. C'est un jour grandiose de la manifestation de la puissance de Dieu. Dans Exode 12, le verset 14, ça nous dit, « Vous conserverez le souvenir de ce jour. » Parce que quand Dieu fait de quoi, là, on a tout intérêt à s'en rappeler, puis même à se réjouir. Dieu veut qu'on se réjouisse et qu'on le remercie en toute chose. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour, puis vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, puis vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voyez-vous, Dieu dans son plan, c'est qu'on puisse s'en rappeler. Puis ça, ça fait 4000 ans de cela environ. On s'en rappelle. On le sait. On est au courant. On a entendu parler. Parce que le peuple juif en avait eu la mission de perpétuer cette fête-là. Mais qu'est-ce que cette fête-là nous annonce aujourd'hui pour nous? Parce que nous, on ne fait pas partie du peuple juif. On n'a pas été de ceux qui ont été délivrés. Sauf qu'on le sait que cette journée-là, il s'est passé quelque chose de spécial. Nous, on n'est plus dans l'ancienne alliance, on est maintenant dans la nouvelle alliance avec Jésus. Par contre, ce qu'on a vu, tantôt j'en ai parlé, c'est que les fêtes perpétuelles de Dieu, c'est des fêtes annoncées par Dieu dans le but que Dieu révèle son plan. C'est que les fêtes annoncent quelque chose de futur. C'est des messages prophétiques. Puis la vraie fête a pour but Jésus. Tout est pour concerner autour de Jésus, le Messie. On va le comprendre dans la suite. On l'a vu tantôt dans Colossiens 2, 17, que les fêtes, c'est un nombre des choses à venir. Ça veut dire, il y a de quoi qui s'en vient. Ça annonce quelque chose dans le futur. C'est prophétique. Puis c'est toute la révélation des fêtes sont en Jésus. On va arriver un peu plus tard, comme 1500 ans plus tard. Fait que les Juifs n'ont jamais lâché de fêter leur fête perpétuelle parce que ça annonce des choses futures. 1500 ans plus tard, il y a un dénommé Jean-Baptiste. Lui, il est envoyé par Dieu. Dieu l'a envoyé pour prêcher la repentance, puis dire à tout le monde, le royaume de Dieu y est proche. Le royaume des cieux s'est approché. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Puis là, il annonçait à quelqu'un qui serait plus grand que lui, qui viendrait, puis qu'il annoncerait le salut, puis que les gens seraient sauvés. Sa mission à Jean-Baptiste était pour révéler le Messie. Mais lui, il comprenait pas tout, il avait juste comme des idées là-dessus. Il connaissait l'ancienne alliance, connaissait la loi, il était sous la loi, mais il y avait le Saint-Esprit avec lui, puis il comprenait les choses de Dieu. Jean-Baptiste, il avait été averti que celui sur qui tu verras l'Esprit, le Saint-Esprit descendre comme une colombe, puis atterrir sur lui, ça serait lui qui sera venu pour nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Fait que Jean-Baptiste, il baptisait les gens. Il disait aux gens de se repentir, puis là, Jésus est arrivé, il a baptisé Jésus, puis il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Là, il était témoin du message qui avait été annoncé à Jean-Baptiste pour dire, celui que tu vas le voir, la colombe tombée sur lui, c'est lui qui baptise l'Esprit Saint de feu, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur du monde. Il savait, mais il était là pour le révéler. Jean-Baptiste, il a vu descendre sur Jésus le Saint-Esprit, la colombe, puis il est venu, puis là, il a commencé à prêcher que Jésus, c'était l'agneau de Dieu, le Messie qui était venu pour ôter le péché du monde. On voit ça dans Jean, au chapitre 1, verset 29, ça nous dit que le lendemain, Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui, puis il lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il est en train de révéler que Jésus est à l'agneau de Dieu. Mais où est-ce qu'il a pris ça? Où est-ce qu'il a compris ça, que Jésus, c'est à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Je suis pas sûr qu'il comprenne à toute la portée de ce message-là, mais nous, aujourd'hui, qui regardons ça 2000 ans plus tard, on comprend que c'est le Saint-Esprit qui avait révélé cela à Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste se basait sur des écrits prophétiques de l'Ancien Testament qui annonçaient que le Messie, l'agneau, viendrait pour prendre les péchés du monde. On voit ça dans Isaïe 53, le verset 7 et 8. Dans le Isaïe 53, si on allait lire ça au complet, ça nous parle de Jésus direct. Ça annonce Jésus, puis ça parle de Jésus dans ce qui était pour sa manière d'être, sa manière de se présenter, puis aussi sa mission, ce qu'il serait venu faire. Puis regardez bien ces deux versets-là, au verset 7 et 8. « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » Là, il est en train de parler que le Messie, il sera semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. On continue. Une brebis muette devant celui qui l'attende. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi de ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Et frappé pour les péchés de mon peuple. Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que Jésus, le Messie, sera appelé l'agneau ou la brebis. Ça, c'est le même qu'ils l'ont caractérisé dans ce passage-là. Puis ça dit qu'il sera, à la fin des deux versets que je vous ai dit, il sera frappé pour les péchés de mon peuple. Fait que Jean-Baptiste lui a annoncé que Jésus était l'agneau de Dieu, venu pour ôter le péché du monde, en voulant dire qu'il sera là pour, qu'il sera frappé pour le péché du peuple. Il avait compris la mission de Jésus, puis il l'annonçait à tout le monde. C'est quelque chose, parce qu'on va voir que ça a 100% rapport avec la fête de Pâques. Jésus, c'est pour ceux qui ne le savent pas, il a été mis à mort la journée de la fête de Pâques de Dieu. Le 14 de Nissan. Jésus a été livré par les hommes, bien entendu, mais c'était le plan de Dieu que cette journée-là, ça arrive, parce qu'il accomplissait dans cette journée-là un message prophétique. Dans l'ancienne alliance, quand les Juifs ont pris un agneau, puis ils l'ont tué, puis ils ont pris son sang, puis ils ont mis ça pour être protégés. Jésus, la journée de Pâques, la même journée, il est venu, il a été livré aux hommes, ils l'ont percé, son sang, puis ils l'ont frappé, tout ça, puis son sang, il a coulé, il a été versé pour prendre le péché de l'humanité. Il y a un parallèle. Autant que l'agneau dans l'Ancien Testament a permis aux gens d'être sauvés puis d'être protégés de la colère de Dieu, le jugement contre les dieux de l'Égypte, autant que dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance en Jésus, Jésus, il est mort la même journée de Pâques, puis son sang qui était versé, puis ça a la même mission, sauf plus grande que le sang de l'agneau, de nous pardonner nos péchés, de nous enlever nos péchés, de nous donner le salut en Jésus, d'être épargné aussi, on va le voir tantôt dans certains versets, de la colère à venir. Le même jour que le sang avait été mis sur le cadre de porte, mais Jésus lui a versé son sang. La fête annonçait une prophétie de la mort du Messie, qu'il verserait son sang pour tous ceux qui croient en lui, afin qu'on soit sauvés. Autant dans l'Ancienne Alliance, quand ils ont pris le sang de l'animal et l'ont mis sur le cadrage de porte, c'est un acte de foi. C'est la première fois de leur vie qu'ils voyaient ça. Ça n'avait jamais venu à l'idée à personne de prendre du sang, de mettre ça sur le cadrage pour être protégé. Mais là, ils l'ont fait parce que Dieu le dit. Ils ont obéi. Ils ont fait un pas de foi. Ça les a sauvés de ce jugement-là. Ils ont eu la vie conservée. Mais c'est la même chose avec le sang de Jésus qui a été versé afin que quiconque croit puisse obtenir le pardon et la vie éternelle. Amen. L'apôtre Pierre nous rappelle que notre rachat, parce que quand tu es un enfant de Dieu, pas quand tu l'étais enfant de Dieu, avant on n'était pas des enfants de Dieu, on était des créatures de Dieu, mais on n'était pas tous ses enfants. Mais on devient enfant de Dieu quand on donne notre vie au Seigneur. On accepte le Seigneur pour notre sauveur, on croit que son sang a été versé pour purifier nos péchés, on l'accepte dans notre vie, on fait le pas de foi, on devient enfant de Dieu, on devient racheté. C'est comme si Dieu nous achète. À partir du moment qu'on reconnaît que le Messie, il a versé son sang pour pardonner mes péchés, puis que je le confesse, je le crois, je le confesse, puis je veux que ça soit pour moi, mais ta vie, elle va changer. Il te rachète. C'est comme si à partir de ce moment-là, il t'a pardonné, puis maintenant tu lui appartiens. Il t'a racheté, il m'a racheté, il a racheté tous ceux qui croient en lui. Dans 1 Pierre 1, 18 à 20, ça nous dit... Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. C'est pas des choses de ce monde qui nous ont rachetés pour être sauvés, de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ. C'est le sang précieux de Jésus qui nous a rachetés. Le sang de l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever le péché du monde. C'est par son sang qu'on a été rachetés. Puis là, ça continue. Il dit comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il fallait que le Messie soit sans défaut et sans tache. Comme la brebis dans l'Ancien Testament... Il prenait un animal parfait, sans défaut, sans infirmité. Fallait que ça soit un animal parfait. C'est un symbole pour annoncer que le Messie qui viendrait nous racheter serait lui aussi sans défaut, sans tâche, sans péché. Puis la Bible nous le dit, Jésus il était tenté en toutes choses sans commettre de péché. C'est le seul qui l'a fait, en fin de compte, d'être sans péché. Puis c'est pour cela qu'il pouvait nous racheter. Parce qu'il lui-même en aurait fait des péchés, mais il se rachetait lui-même dans le jugement. Mais vu qu'il n'a pas fait, il était pur, sans tache, ni ride, ni rien de ça. Mais là, il peut nous racheter. Puis son sang, son sacrifice est agréé de Dieu parce qu'il a accepté, Jésus a accepté de mourir à notre place. Nous, à cause de nos péchés, la Bible a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a accepté de subir la mort, même s'il n'avait pas fait de péché. Mais il a décidé de prendre les péchés de l'humanité, les prendre sur lui, même si lui n'avait pas fait. Puis il a expié les péchés. Maintenant, quiconque veut croire en son sacrifice peut être pardonné. C'est ça que ça dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui... ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait que si tu crois au Seigneur, tu l'acceptes, tu dis au Seigneur, moi je suis pécheur, mais toi t'as rien fait, mais t'as versé ton sang pour moi. Si tu comprends ça, qu'il est l'agneau de Dieu, qui est venu pour enlever nos péchés, puis particulièrement pour moi, il a enlevé mes péchés, puis il va enlever vos péchés. Si vous le croyez, puis vous le saisissez, vous allez être pardonné de vos péchés. Il vous rachète. Il dit, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Puis il était prédestiné depuis la fondation du monde, puis il était manifesté, voilà 2000 ans. Il est venu, puis il l'a accompli. Mais il était prédestiné. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, c'était déjà prévu que Jésus était pour expier les péchés la journée de Pâques. Fait que Pâques n'est pas comme qu'on le croit aujourd'hui. Pâques n'est pas la résurrection. Pâques est la crucifixion. Jésus a été crucifié la journée de Pâques. Puis aujourd'hui, on suit une mentalité qui est une évolution des pensées, mais Pâques, c'est le 14 de Nissan. Puis pour cette année, c'est comme si ça a tombé mercredi, ça change d'une année à l'autre, la journée du 14 de Nissan. C'est pas toujours le dimanche. Il y a eu une résurrection, Jésus, trois jours plus tard, oui, mais c'est pas Pâques. Pâques, c'est la crucifixion. C'est ça que Dieu voulait qu'on célèbre, le sacrifice de Jésus, le sacrifice de l'agneau de Dieu. Grâce au sang versé de Christ, nous avons été rachetés. Il a payé par son sang pour qu'on soit rachetés, puis il nous a donné un nouveau départ. On lui appartient, nous sommes pardonnés, et même il nous délivre de la colère à venir. À cause que le sang de Jésus est sur nous, il nous délivre de la colère à venir. Il y a une colère qui s'en vient. Dieu, il n'est pas de bonne humeur. Même si Dieu il aime tout le monde puis il veut sauver tout le monde, il n'est pas de bonne humeur. Ceux qui ne croient pas au Fils n'ont point la vie puis la colère de Dieu demeure sur eux. Il faut absolument réaliser que tu as à être sous le sang de Jésus si tu veux être pardonné puis tu veux aller dans la vie éternelle. Sinon, tu ne pourras pas rentrer. Il faut absolument que tu passes par Jésus. Jésus, c'est la porte. Puis il est aussi le chemin. Faut que tu ailles à Jésus. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu n'as pas le choix de passer par Jésus pour aller au Père dans la vie éternelle. Jésus est l'agneau qui enlève tes péchés. Faut que tu passes par être pardonné et racheté pour que tu lui appartiennes vraiment pour rentrer. Pis ça sera pas parce que tu es meilleur que les autres que tu vas rentrer. Ça va être à cause de ta foi. Tu crois que le Messie a payé pour toi, puis tu le saisis, maintenant tu vas être sauvé. Merci Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 1:10, ça dit qu'on attend des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, ben Jésus était ressuscité trois jours plus tard, il nous délivre de la colère à venir. Le fait que tu es sous le sang de Jésus, tu es délivré de la colère à venir, la même chose que dans l'Ancien Testament, s'il avait mis le sang sur les cadrages de porte, il était délivré du jugement contre les dieux de l'Égypte. La colère à venir, elle s'en vient, puis ça va arriver dans pas long, quand Jésus va revenir, vient chercher ses enfants, puis ça nous parle de sept fléaux qui vont tomber sur la terre, pas les seaux, les fléaux, ils vont tomber sur la terre, pour des jugements sur le trône de la bête, puis tout le monde qui va avoir là, c'est du monde qui n'ont pas participé à l'enlèvement, puis ils sont perdus à tout jamais. Manquons pas le retour du Seigneur, il n'y a pas deux opportunités, il y a une seule résurrection des justes. La première résurrection, c'est au retour de Jésus, les morts vont ressusciter, nous on va être enlevés avec eux, puis là ça va être le jugement, puis les fléaux de Dieu qui accomplissent la colère de Dieu sur la terre. Faut pas être là. La seule manière d'y échapper, c'est d'être sous le sang de Jésus. Maintenant, vu que le Christ, qui est notre Pâque, a été immolé, parce qu'il est notre Pâque, nous sommes exhortés à vivre cette nouvelle vie en faisant disparaître ce qui est de notre ancienne vie. Dans 1 Corinthiens 5:7, ça nous dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voyez-vous, Christ, c'est notre Pâque. Autant que l'agneau dans l'Ancien Testament était l'agneau de leur Pâque, nous, notre Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'accomplissement de la prophétie de la journée de Pâques, de ce sacrifice-là. Il l'a accompli, puis il y en a le titre, on le voit dans ce passage-là. Depuis 2000 ans, la fête de Pâques prend le vrai sens voulu par Dieu. Il nous a présenté l'agneau de Dieu, son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous sauver. Ça fait 2000 ans que le message de l'Évangile est annoncé, que Dieu donne une grâce. On ne dira pas qu'il donne une chance, là. Il donne une grâce de qu'on puisse se repentir, arrêter d'être incrédule puis rebelle, arrêter de suivre des faux dieux, mais se tourner vers le véritable Dieu, Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu aussi, c'est Dieu le Fils, de se tourner vers lui pour recevoir que son sang soit sur nous, puis qu'on puisse être racheté. Je vous laisse un dernier verset. On est encore aujourd'hui exhorté par la parole à célébrer la fête de la Pâque. La Bible nous le dit qu'il faut continuer à la célébrer dans le Nouveau Testament. La Pâque qui est le vrai sens, Passover, que Dieu passe par-dessus nous, le jugement passe par-dessus nous, parce que le sang est sur nous. Puis il nous demande de le célébrer d'une manière pure et vraie. Regardez le dernier passage que je vous donne, 1 Corinthiens 5:8. Ça nous dit, célébrez donc la fête. Voyez-vous, il n'y a pas un arrêt des célébrations des fêtes de l'Ancien Testament. Ça nous dit dans le Nouveau Testament de la célébrer, la fête de Pâques. C'est une chose qui était pratiquée parmi les premiers disciples. Puis il faut arrêter de suivre les fêtes du monde, mais observer ou croire ou réaliser, commencer, que la vraie fête de Pâques de Dieu, celle qui est perpétuelle, celle qui nous est demandée de célébrer, c'est la fête du 14 de Nissan, qui tombe pour nous mercredi. Il dit, célébrez donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice puis de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voyez-vous, Dieu nous appelle à marcher dans la vérité. Qu'on arrête de croire des mensonges. Qu'on arrête de s'attacher à des fausses choses qui sont données aujourd'hui par l'évolution de la religion. Pour venir aux vraies choses, les fêtes de l'Éternel. Je vais faire une prière avec vous. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous voulez être sauvé, vous voulez être pardonné, vous voulez que le sang de Jésus soit sur vous, vous en avez l'occasion maintenant de l'accepter pour le recevoir. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un homme pécheur. Je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Puis continue à la faire. Continue à donner ta vie au Seigneur chaque jour. Puis demande-y qu'il vienne dans ta vie pour te conduire. Puis lis la Bible aussi, ça va t'aider à comprendre. C'est la parole de Dieu. Tu vas grandir dans le Seigneur. Va aussitôt que tu le pourras dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis va aussi sur mon site, publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement. Puis ils vont faire de toi un disciple.